Chapitre 89, où il est longuement question des vertus de Madame la Marquise Yolande Pantaletet de la Tournelle. Le général regarda un instant son neveu avec cette compassion du vieillard pour les maux qu'il n'éprouve plus, mais qu'il se rappelle avoir éprouvés. Puis il reprit « Maintenant, mon cher Pétrus, prête à ce que je vais te dire une oreille attentive. Ce sera plus intéressant pour toi que ne l'était pour Didon et ses courtisans l'histoire d'Énée. Et cependant, dit le poète, continuere omnes identique ora tenebant. J'écoute mon oncle, dit tristement Pétrus. Tu connais Monsieur Rapt? Je l'ai vu deux fois dans l'atelier de Regina, répondit le jeune homme. Et tu le trouves outrageusement laid, n'est-ce pas? C'est naturel. Laid n'est pas le mot, mon oncle. Tu es bien généreux. Je dirais plus, continua Pétrus. Aux yeux de beaucoup de gens pour lesquels l'expression du visage ne signifie rien, le contrapte peut même passer pour un bel homme. Morbleu, voilà comme tu parles de ton rival. Mon oncle, il faut être juste, même avec un ennemi. Ainsi, tu ne le trouves pas laid. Je le trouve bien pis que cela, mon oncle. Je le trouve inexpressif. Tout est froid et immobile comme le marbre dans cet homme, et semble, par un certain instinct matériel, tendre vers la terre. Les yeux sont ternes, les lèvres minces et serrées, le nez est rond, le teint couleur de cendre, la tête remue, jamais les traits. Si l'on pouvait recouvrir un masque de glace d'une peau vivante, mais qui eût cependant cessé d'être animée par la circulation, ce chef-d'œuvre d'anatomie donnerait quelque chose de pareil au visage de cet homme. « Tu flattes tes portraits, Pétrus, et si je veux laisser de moi un souvenir embelli à la postérité, je te chargerai de lui transmettre mon image. Mon oncle, revenons, je vous prie, à M. Rapt. « Bien volontiers, mais enfin, tel que tu trouves ton rival, ne t'étonnes-tu pas que Regina consente à l'épouser ? En effet, mon oncle, une personne d'un goût si pur, d'une appréciation si élevée, je n'y comprends rien. Que voulez-vous ? Il y a de ces mystères-là dans les femmes, et malheureusement, Regina est une femme. « Bon, tout à l'heure, tu ne l'acceptais pas comme une demi-déesse, et voilà que, parce qu'elle ne t'aime pas et qu'elle va en épouser un autre, tout en l'aimant, tu la rabaisses au-dessous de l'humanité. Mon oncle, nous ne sommes point ici, daignez-vous le rappeler, pour discuter les agréments, la vertu, ou le plus ou moins de divinité de mademoiselle Regina de la Motte-Houdan. Nous sommes ici pour parler de M. Rapt. Ah, c'est juste. Vois-tu, mon cher Pétrus, il y a, dans l'histoire obscure et tortueuse de cet homme, deux mystères. L'un m'a été révélé, mais je n'ai jamais pu pénétrer l'autre. Et ce mystère que l'on vous a révélé, mon oncle, est-il un secret? Oui et non, mais en tout cas, je me crois le droit de le partager avec toi. Tu me disais avant le dîner, cher ami, que j'avais été particulièrement dévot à cette dévote qui se nomme la marquise de la Tournelle. Il y a par malheur du vrai là-dedans. Mademoiselle Yolande de la Motte-Houdan épousa en 1784 le marquis Pantaletet de la Tournelle, ou plutôt les 80 ans et les 150 000 livres de rente du susdit marquis. De sorte qu'au bout de 6 mois de mariage, elle se trouva veuve, marquise et millionnaire. Elle avait 17 ans, elle était ravissante. Tu jurerais, n'est-ce pas, qu'elle a toujours eu 60 ans et qu'elle n'a jamais été belle? Jure, mon ami, mais ne parie pas, tu perdrais. Tu dois comprendre que tout ce qu'il y avait de gentilshommes élégants à la cour du roi Louis XVI présenta ses hommages à la belle veuve. Mais grâce à un très sévère directeur de conscience qu'elle l'avait, elle résista, dit-on, à toutes les tentations du diable. On attribuait cette vertu, qu'on ne savait à quoi attribuer, à la mauvaise santé de la marquise. En effet, vers la fin de 1785, on la vit pâlir, maigrir, dépérir, au point que l'on ordonna les eaux de forge, fort à la mode à cette époque. Si efficaces que fussent les eaux de forge, au bout d'un mois ou deux, on s'aperçut qu'elles étaient insuffisantes et le médecin conseilla celle de je ne sais plus quel petit village de Hongrie, appelé Rapt, je crois. Mais mon oncle, c'est le nom du colonel, interrompit Pétrus. Je ne te dis pas le contraire. Pourquoi veux-tu, puisqu'il y a de par la terre un village qui s'appelle Rapt, qu'il n'y ait pas de par le monde un homme qui s'appelle comme ce village? Vous avez raison. Ce médecin dont je te parle était un très habile homme. La belle et languissante veuve partit pour la Hongrie vers le commencement de 1786, pâle, amaigrie, défaite. Elle resta 6 mois aux eaux ou ailleurs, et revint vers la fin de juin de la même année, fraîche, grasse, bien portante, plus belle enfin que jamais. Le bruit de sa sauvagerie avait alors jeté, parmi les prétendants de Mademoiselle Yolande, le même désordre que jeta, parmi ceux de Pénélope, le retour d'Ulysse. Moi seul n'avais pas espéré au départ et ne désespérais point au retour. Cela tenait à ce que, envoyé en mission auprès de l'empereur Joseph II, j'avais eu l'idée, la réponse à ma dépêche ne pouvant être donnée qu'au bout d'une quinzaine de jours, j'avais eu l'idée, dis-je, d'aller faire un tour en Hongrie et, une fois en Hongrie, de pousser jusqu'à Rapt. Je ne peux pas te dire tout ce que je vis sans être vu, mais tout ce que je vis me donna la certitude que la rigide veuve n'était point aussi sévère qu'elle le paraissait. Et c'est l'espoir qu'à son retour, je pourrais, avec de l'assiduité et de la patience, obtenir d'elle ce qu'il n'était que trop probable qu'un autre, plus heureux que moi, avait obtenu. Elle était enceinte ? Demanda Pétrus. Oh, je n'ai pas dit un mot de cela. Mais il me semble, mon oncle, que si vous n'avez pas dit un mot de cela, c'est au moins cela que vous avez voulu dire. Mon cher Pétrus, tire de mes paroles les conséquences qu'il te plaira d'en tirer. Mais ne me demande pas d'explication. Je suis comme Tacite. Je raconte pour raconter et non pour prouver. Narro at narrandum, non at probandum. J'écoute, mon oncle. Un an après, j'eus la preuve évidente et irrécusable que La Fontaine fut un grand moraliste le jour où il lança cet axiome « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». C'est-à-dire, mon oncle, que vous fûtes l'amant de la marquise de La Tournelle. Oh, que tu as une méchante habitude, Pétrus, c'est de vouloir faire mettre aux gens les points sur les i. Rien n'est de plus mauvaise compagnie que cette exigence-là. Je n'insiste pas, mon oncle, mais ces bouquets que régulièrement vous envoyez. Depuis 40 ans, mon cher ami, je souhaite que dans 40 ans, la belle Regina de la Motte-Houdan reçoive un bouquet ayant signification semblable à celui que j'envoie à la marquise de La Tournelle. Ah, vous voyez bien, mon oncle, que c'est à la marquise de La Tournelle que vous donnez cette marque de souvenir. Ai-je donc laissé échapper le nom de la pauvre marquise? Si cela est, je suis impardonnable en vérité. D'autant plus impardonnable que ma liaison avec elle ne dura que quelques mois. Attendu que, vers le milieu de 1787, Sa Majesté la Reine Marie-Antoinette me renvoya en mission en Autriche, d'où je ne revins en 1789 que pour quitter de nouveau la France le 7 octobre de la même année. À partir de ce moment, tu sais ma vie, mon cher Pétrus. J'ai voyagé en Amérique, je suis revenu après le 10 août 1792 en Europe, je suis entré dans l'armée de Condé, j'y suis resté jusqu'au licenciement, je me suis établi à Londres, marchand de jouets d'enfants, je suis revenu en France en 1818, j'ai touché mon indemnité, et finalement j'ai été nommé député en 1826. En entrant à la chambre, j'y ai trouvé le comte Rapt. D'où venait-il? Qui était-il? À qui devait-il sa fortune? Personne ne pouvait le dire. Comme Catina, il avait reçu ses lettres de noblesse sans être obligé de faire ses preuves. Le nom du comte étant le même que celui de ce petit village de Hongrie qui jouait un rôle dans les événements de ma jeunesse, attira mon attention sur mon honorable collègue. Une discussion que j'eus, quelque temps après, avec ma vieille amie, la marquise de La Tournelle, sur l'âge positif du comte, qu'elle s'obstinait vis-à-vis de moi à rajeunir d'un an, fit que je me mis aux enquêtes sur les antécédents du colonel. Or voici ce que j'appris. Je te préviens d'avance que je tiens toutes ces choses que je vais te dire pour de méchants propos auxquels je t'invite à n'ajouter qu'une foi très douteuse. La carrière militaire du Contratte date de 1806. On le voit poindre tout à coup près du général de La Motte-Houdan à la bataille d'Iéna. Le colonel Contratte est brave, personne ne lui conteste cela, il faut bien lui laisser quelque chose. Il se distingua, fut fait lieutenant sur le champ de bataille et, à peine nommé lieutenant, fut choisi par le général de La Motte-Houdan pour lui servir d'officier d'ordonnance. Pardon, mon oncle, interrompit Pétrus. Mais si, comme tout donne lieu de le supposer, le colonel Rapt est le fils de la marquise de la Tournelle, la marquise étant la sœur du maréchal, le Contrappe se trouverait être le neveu de monsieur de La Motte-Houdan. En effet, mon ami, voilà comme les mauvaises langues expliquent son avancement rapide, sa faveur constante près du maréchal et son influence politique à la Chambre. Mais tu comprends que si l'on croyait tout ce que disent les mauvaises langues. Continuez, mon oncle, je vous en prie. Eylau ajouta un degré à la fortune militaire du jeune officier. Nommé capitaine vers la fin de février 1807, il devint alors aide-de-camp du général de La Motte-Houdan. Ce fut en cette qualité qu'il assista, le 27 septembre 1808, à l'entrevue d'Erfurt. Mon cher ami, lorsque tu t'occuperas d'histoire contemporaine, tu viendras me demander quel but avait cette paix jurée entre les deux plus puissants souverains de l'Europe. Et comme j'habitais Londres à cette époque et que tout tourneur du bois que j'étais, je voyais, en ma qualité de descendant des empereurs de Constantinople, des hommes assez bien renseignés. Je te dirais que l'Angleterre, qui avait frissonné lors du camp de Boulogne, trembla lors de l'entrevue d'Erfurt. Elle avait senti l'Inde près de lui échapper. Mais par bonheur, nous n'avons point à nous occuper de ces suprêmes questions. De moindres intérêts nous agitent, comme on dit au théâtre français. L'empereur Napoléon avait présenté à son ami, l'empereur Alexandre, les généraux qui l'accompagnaient, faisant à chacun la part de la naissance, du rang et du courage. Le général de brigade de La Motte-Houdan fut présenté comme les autres. Sa naissance était illustre, son courage proverbial, seulement il était pauvre. Sire, dit un jour l'empereur Napoléon à l'empereur Alexandre, avez-vous une riche héritière moscovite dont vous ne sachiez que faire? J'ai un brave mari à lui donner. Sire, répondit l'empereur de Russie, j'ai justement à l'heure qu'il est sous ma tutelle une jeune princesse orpheline et riche à millions. Une princesse? Oui, et ce qui est rare en Russie, une vraie princesse de vieille souche, d'antique noblesse, une descendante des anciens tsars, non pas avec un nom en off, comme nous autres Romanov qui sommes de la noblesse d'hier, mais un nom en qui. Jeune, 19 ans, jolie, elle est circassienne. Ah, voilà qui me convient à merveille. Eh bien, mon cousin, je vous demande la main de votre orphelin pour m'en protéger. Accordé, mon cousin, répondit Alexandre. Et 15 jours après, la princesse Rina Tchouvalievski épousa le général de division, comte de La Motte-Houdan. Passe-moi un verre de rhum, égoïste, qui ne songe même pas à demander à ton oncle s'il n'a pas l'habitude de prendre quelque chose après son café. Pétrus, désireux de connaître la fin de l'histoire, se hâta de verser et de lui présenter la chaude et ardente liqueur mûrie par le soleil d'or de la Jamaïque.